caille en sarcophage.
Les chroniques gastrosophiques du professeur Rosmini, tous les dimanches à 13h30.
Je voudrais donc tout d'abord prévenir les auditeurs que cette chronique gastrosophique est vivement déconseillée aux oreilles trop sensibles et à ceux qui auraient du mal à supporter les films gore et autres expressions de la cruauté humaine. En effet, l'histoire que je vais raconter, sur laquelle je vais essayer de réfléchir, interroge d'abord notre propre fascination pour le morbide, justement, par rapport peut-être à cette notion aristotélicienne de catharsis, qui voudrait qu'on se purge de nos passions et de nos fascinations morbides en les voyant représentées. Et puis cette histoire, elle pose aussi la question de savoir si tout est permis au nom de l'art et au nom de la recherche esthétique. L'histoire se passe en 1981 à Paris. Et c'est l'histoire d'Issei Sagawa, étudiant japonais en littérature à l'université Paris 3, qui tue, découpe et mange en partie une étudiante néerlandaise, Renée Hartvelt, étudiante elle aussi en littérature à Paris 3. Alors l'acte donc d'Issei Sagawa est terrifiant, c'est certain, mais on ne peut pas le qualifier de sauvage. Si le mot sauvage renvoie à la forêt, à la sauvagerie, à quelque chose de primitif, de non maîtrisé. Au contraire, le crime anthropophage de Sagawa est très, très raffiné, très esthétisé, particulièrement mis en scène, avec un souci, comme l'artiste, de laisser une trace. Alors la trace, c'est d'abord l'enregistrement en direct de la mort de Renée Hartvelt, qui lit des poètes expressionnistes allemands, notamment un poème de Johannes Becher, que je cite. « L'homme fort qui part pour l'ouest avec le soleil levant, je le loue avec joie. Il chasse une bête sauvage, gorgée de sang, dans le pays, dans la journée. Dévorée, la ville se rassasie de cervelle. L'animal qui a déchiré la terre avec le mauvais désir. » Et là, la lecture s'interrompt. On entend une détonation qui interrompt la lecture et la chute d'un corps. Oka no dare ka o aishita kimi wa Autre trace que Sagawa a voulu laisser de son crime, de son œuvre, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ce sont les nombreuses photographies du dépeçage et de la préparation culinaire de l'étudiante, notamment une photographie qui montre un sein dans une poêle, puis le même sein dans l'assiette avec des petits pois et de la moutarde. Et on voit que ces photos sont dignes d'un rapprochement surréaliste, de cette tradition surréaliste de rapprochement incongru, voire choquant. On sait aussi que André Breton, dans le Manifeste du surréalisme, considérait que l'acte le plus surréaliste serait justement de descendre dans la rue et de tirer au hasard sur les passants. Donc Issei Sagawa est arrêté peu de temps après son acte, qu'il revendique immédiatement comme justement un acte artistique. En faisant de l'humour aussi, il dit au policier qui l'arrête « Vous dites bien en France qu'une femme est à croquer ». Issei Sagawa est donc examiné par des experts psychiatres qui sont étonnés par le contraste entre sa très grande intelligence, sa très grande culture et puis son absence totale d'inhibition et de conscience morale, qui aurait en l'occurrence des causes cérébrales qui seront confirmées par le tracé en céphalogramme. Puisque lorsque Issei Sagawa est né en 1948, il a été déclaré mort-né. Il est resté 20 minutes sans respirer, puis il a eu une encéphalite à 2 ans, et tout ça lui aurait laissé des séquelles cérébrales irréversibles, qui auraient notamment inhibé complètement son sens de la culpabilité et ses valeurs morales. Issei Sagawa est donc déclaré irresponsable pénalement. Il est interné en hôpital psychiatrique à Paris, puis au Japon, et puis il est libéré en 1985, et depuis il est sous surveillance permanente de la police, mais enfin il est en liberté. Et durant ces années donc, d'hôpital psychiatrique puis de liberté, eh bien Sagawa va devenir un véritable mythe vivant, comme Warhol, et comme les personnages représentés par Warhol. On sait qu'Andy Warhol était fasciné par la célébrité et par les différentes formes de cette célébrité, les différentes façons d'être célèbre, et Warhol représentait autant, on le sait, les grands acteurs, les grands sportifs et puis aussi les grands criminels. Donc Issei Sagawa est un personnage à la fois surréaliste et warholien, dans la mesure où il revendique son acte, où il revendique sa vie elle-même comme, comme une œuvre d'art, où il revendique ce souci de laisser son nom dans l'histoire de l'horreur, finalement. D'ailleurs, il a écrit de nombreux livres sur son acte. Il a participé à des shows télévisés au Japon, à des interviews, même apparemment à des publicités. Et dans tous les cas, Issei Sagawa s'est toujours vu et mis en valeur, justement, comme un personnage de roman. Je cite Patrick Duval, son biographe, qui écrit « Son crime était très littéraire, théâtral. On sent qu'il a pratiquement monté une pièce de théâtre avec ça, in vivo. Il a construit le décor et il l'a regardé du début à la fin de façon extrêmement esthétique. » Fin de citation. Alors l'apogée de la vie d'Issei Sagawa, ça va être l'année où le livre qui relate sa correspondance donc entre lui-même et Jurō Okara, qui est un écrivain japonais, aura le prix, l'équivalent du prix Goncourt japonais. Hein, et donc, ça sera vraiment le couronnement de cette ambition hein, littéraire, de cet étudiant en littérature anthropophage. Kimi wa kimi no kokoro o shirasu. Boku wa boku no. Alors, cette histoire, elle nous met mal à l'aise. Alors bien sûr en raison d'abord de la transgression d'un tabou majeur, hein, l'anthropophagie, peut-être aussi en raison de cette complaisance des médias qui fait qu'aujourd'hui quiconque est célèbre peut faire des publicités, des talk shows, etc., ce qui pose quand même un petit problème au niveau de l'éthique, mais aussi, peut-être plus profondément, elle nous met mal à l'aise parce qu'elle nous fascine, hein, elle exerce une fascination sur nous, et cette fascination, elle nous conduit à penser que ces pulsions, ces pulsions esthético-anthropophages ou anthropophages ou esthétiques, je ne sais pas comment on peut les appeler, et bien que ces pulsions, elles font aussi partie de nous. Sauf que bien entendu, la plupart d'entre nous, qui justement n'en ont pas une absence d'inhibition morale telle que pouvait l'avoir Sagawa, vont satisfaire ces pulsions de manière substitutive grâce justement aux œuvres d'art, et notamment par exemple en regardant le film de Peter Greenaway, Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant.
En sarcophage.
Les chroniques gastrosophiques du professeur Rosmini.